revisiter l'anthropologie de la santé des migrants à l'aune de la sociologie des relations interethniques. Je vais essayer déjà de dire en un mot ce que nous apprend l'anthropologie de la santé, de la maladie et de la médecine, en tout cas pour notre histoire ici aujourd'hui. L'anthropologie de la santé, elle a longtemps étudié des représentations, des pratiques liées aux maladies, à la prévention, au corps, aux soins, etc., dans les sociétés qu'on ose de moins en moins appeler traditionnelles et qu'on appelle les sociétés du Sud. L'idée de base, qui était assez révolutionnaire à l'époque, il n'est plus aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années 50, aux États-Unis d'abord et puis dans les pays. Donc l'idée de base de cette anthropologie de la santé, qui était assez révolutionnaire quand elle a été émise au début, c'était que la santé avait une réalité indépendante de sa définition biomédicale, c'est-à-dire de la définition que lui donnait la médecine scientifique. Elle faisait l'objet, c'était toujours cette idée révolutionnaire, elle faisait l'objet d'un traitement spécifique à chaque culture. Et bon, ces travaux débutent, je ne vais pas vous assommer de noms, surtout c'est pour les gens qui ne sont pas familiers de ces questions, mais bon, les travaux débutent avec Rivers, Clemens, Ackerknecht, dès les années 20, 30, 40 aux États-Unis, puis en Europe. Donc la médecine y est considérée comme un processus social qu'il faut étudier comme tout autre processus social, comme toute autre pratique, et elle est fondée sur un corps de croyances qui est cohérent et logique. Alors ça nous semble évident aujourd'hui, mais l'idée à l'époque c'était aussi de réhabiliter des systèmes de pensée non occidentaux qui étaient apparus avant l'anthropologie, au moment de la colonisation et même avant, comme des modes de pensée absurdes, irrationnels, etc. Donc le grand mérite de cette anthropologie, c'est aussi d'avoir montré que les représentations et les pratiques de santé et de maladie ne constituaient pas des systèmes autonomes, mais étaient complètement imbriqués dans d'autres domaines sociaux, parenté, ce qui est très important pour les anthropologues, comme vous savez, religion, système cognitif, etc. Alors, la grande époque de l'anthropologie de la maladie en France, on peut considérer, disons qu'elle débute avec les travaux de Marc Auger, Andreas Zampleni, etc., plutôt dans les années 70-80 du siècle dernier. Alors, je ne reviens pas ici sur tous les débats internes, on pourra y revenir, mais c'est un peu hors de propos, ici en tout cas, entre ceux, par exemple, qui défendent une anthropologie de la maladie et ceux qui préfèrent utiliser le terme d'anthropologie médicale. C'est un débat qui renvoie surtout à la distance, à la distance de l'anthropologie vis-à-vis de la biomédecine, c'est-à-dire la médecine scientifique. Je n'aborderai pas non plus un autre débat qui ne nous concerne pas directement ici, qui est autour des travaux anglo-saxons qui, eux, privilégient plutôt l'aspect usage social de la maladie, avec cette idée que les soins, les représentations de la maladie, les solutions apportées à ces maladies dans les sociétés traditionnelles, quel que soit l'endroit où on trouve ces sociétés traditionnelles, donc y compris en Europe, eh bien, ces soins constituent un aspect de contrôle social. Et l'approche française, par ailleurs, qui a privilégié plutôt l'aspect d'étude du sens de la maladie dans un système de pensée globale. On cherche à déterminer quels sont les systèmes, vraiment, de représentation de la maladie, du corps, et comment cela contribue à expliquer une maladie, un traitement dans telle ou telle société. Alors, que sait-on ? Que nous dit l'anthropologie de la santé sur la santé des migrants et dans quelle perspective? Alors, elle nous dit exactement ce que je viens de vous dire dans la perspective générale que je viens de vous décrire, c'est-à-dire les travaux sur la santé des migrants ont repris ces mêmes schémas et il faut les situer à une époque, c'est celle des années 70-80. Je vais parler ici plutôt de la France. Une époque où on commence à comprendre que les travailleurs immigrés venus du Maghreb, venus de Turquie, etc., à partir des années 50-60, vont s'installer en France, vont y rester, qu'on commence à prendre un peu plus en considération cette question, qui jusqu'à présent n'en était pas une, ni dans la politique, ni dans les politiques gouvernementales françaises, ni dans la recherche. Et l'intérêt de l'anthropologie, qu'elle soit fondamentale, entre guillemets, ou appliquée, entre guillemets, eh bien, se porte sur ces migrants avec l'idée que pour les comprendre, pour comprendre comment ces migrants vont s'installer en France, eh bien, il faut faire appel à des spécialistes de leur culture d'origine. Pour comprendre quelles sont leurs pratiques de santé, il faut de la même façon faire appel à des anthropologues spécialistes de leur système de santé, de leur système cognitif général et en particulier en ce qui concerne la santé et la maladie. L'idée, c'est que dans le domaine de la santé et de la maladie, comme dans tous les autres, eh bien, la culture d'origine est une sorte d'obstacle à de bonnes pratiques de soins et doit être connue, c'est-à-dire expliquée par les anthropologues, ça leur donne du boulot, tant mieux, pour pouvoir adapter les mesures prises à l'égard des immigrés et de leurs descendants. Et c'est l'époque aussi où beaucoup de pathologies développées par les migrants eh bien, sont expliquées aussi en fonction de ces pratiques spécifiques, de ces représentations spécifiques. Diabète, précisément, donc ici une spécialiste, absence de contraception, plus tard exposition au VIH, etc. La culture est en quelque sorte responsable d'une exposition plus grande des immigrés à ces pathologies. Alors, l'idée ici, bien sûr, c'est pas de nier ce facteur culturel, hein, ni l'existence de modes de représentation spécifiques hein, dans différentes sociétés, mais c'est de montrer quand même en quoi cette approche culturelle de l'immigration, dans le domaine de la santé comme dans tous les autres, a perverti une approche qui, au départ, était saine, c'était celle de reconnaître la présence de cultures étrangères sur le sol français. Je m'explique, donc à partir du moment où on a commencé à reconnaître hein, le fait qu'il y avait des gens qui pensaient différemment, qui agissaient différemment, qui étaient porteurs de cultures entre guillemets différentes, cultures plus loin différentes, et bien à partir de cette reconnaissance, l'approche de l'immigration par l'anthropologie était une approche en termes de parcours migratoire. Et donc de parcours de santé migratoire. C'est-à-dire que les immigrés et leurs enfants se sont trouvés considérés comme responsables de leur intégration et responsables de leur santé. Hein ? Vous voyez bien que si vous êtes dans ce genre d'approche où tout est expliqué par la culture, etc., eh bien quand vous avez telle pratique de santé, c'est ce qui est responsable du fait que votre santé est défectueuse. Quand vous développez tel comportement, il est censé être culturel et c'est donc ce qui est un frein à votre intégration, etc. C'est un mode de pensée sur lequel on continue largement à fonctionner d'ailleurs aujourd'hui. Un peu moins, mais néanmoins. Donc c'est en comprenant, dans cette optique-là, c'est en comprenant les représentations de la santé qu'avaient ces migrants qu'on allait pouvoir mieux les soigner. Ce qui n'est pas faux, encore une fois, mais qui représente une vision biaisée et exploitée politiquement, hein, pour traiter la question de l'intégration et aussi des pratiques de santé. Bon, j'en ai un exemple, hein, parce que tout ça peut peut-être sembler abstrait. Un exemple dans les travaux de quelqu'un qui s'appelle Anne-Jeanne Naudet, qui est quelqu'un qui fait une thèse sous la direction de Didier Fassin, sur le saturnisme. D'ailleurs, il y a eu des travaux publiés là-dessus, notamment dans Hommes et Migration, la revue. Le saturnisme, c'est une maladie qui réapparaissait, qui avait disparu au 19e, qui réapparaissait et dont on constatait qu'elle frappait surtout les enfants d'immigrés d'Afrique noire. Ça entraîne des retards mentaux, ça peut entraîner des décès dans des cas graves, etc. On s'est interrogé bientôt, bien sûr, sur les pratiques sanitaires des parents. On a évoqué des pratiques rituelles qui consistaient à manger la terre, des pratiques de ce qu'on appelle la géophagie, qui seraient des pratiques rituelles religieuses, etc., qui expliqueraient la maladie des enfants, etc. Jusqu'à ce qu'on découvre tout simplement que la peinture au plomb des très vieux appartements habités hein, par ces familles noires africaines dont les enfants étaient principalement touchés par le saturnisme, eh bien, ces appartements étaient encore couverts de peinture aujourd'hui interdite, et puis les enfants en bas âge les portaient à la bouche, etc. Donc il n'y avait rien de vraiment culturel dans cette pratique, et toutes les interrogations qui étaient d'emblée parties dans un sens s'avéraient vaines, puisque l'explication n'était pas culturelle, entre guillemets. De même, souvenez-vous, au début de l'épidémie du sida, les Haïtiens qui présentaient les taux de contamination, c'est ce qu'on appelait les 3 H, hein, la contamination par les 3 H, homosexuels, haïtiens, et le troisième H, je ne me souviens plus, hémophiles, voilà. Donc les Haïtiens qui présentaient des taux de contamination au VIH particulièrement élevés, et bien tout de suite, les recherches ont commencé à aller du côté des pratiques vaudou, etc., qui auraient pu être responsables des premières contaminations. Ça s'est en fait révélé sans aucun rapport, hein, ces pratiques religieuses avec les taux de contamination. Et Paul Farmer, qui est à la fois médecin et anthropologue, et c'est rare de faire bien les deux, c'est rare d'être à la fois un bon médecin et un bon anthropologue, dans un ouvrage traduit en français qui a été publié chez, je sais plus, c'est chez Cartala ou chez Larmatan, enfin, qui s'appelle Le sida en Haïti, eh bien, montre que probablement ce sont des touristes sexuels états-uniens qui ont introduit le VIH en Haïti, où il s'est développé sur fond de grande pauvreté. Bon, il décrit ce processus. Grande pauvreté accentuée justement par l'arrêt du tourisme lié à la représentation très négative de Haïti au début de l'épidémie. Bon, ce que je dis ici à propos de la santé, hein, cette façon, si vous voulez, de focaliser sur des pratiques culturelles, dans l'approche des migrants, bon, et voilà pour d'autres domaines également, hein, scolarité des enfants, rapport de voisinage, etc., qui ont été analysés dans les mêmes termes. Bon, en France, c'est par exemple la revue Migration Santé, qui constitue aujourd'hui toujours, hein, la revue principale qui traite de ces questions, et bien qui est le reflet de ce courant dans l'approche de la santé des migrants. Donc c'est un courant qui continue à être perçu comme très largement légitime, et en tout état de cause, c'est le discours le plus largement répandu sur le sujet. Dans le même ordre d'idées aussi, l'ethnopsychiatrie, hein, a connu un très grand succès dans le traitement des problèmes psychologiques ou psychiatriques des migrants. L'ethnopsychiatrie, telle qu'elle est représentée par certains courants, comme ceux de Toby Nathan, par exemple, en France aujourd'hui, qui s'appuie sur les travaux de Georges Devreux, mais bon, les travaux de Georges Devreux ne portaient pas sur les migrants, hein, mais il essayait d'aborder la psychiatrie sous un angle culturel, disons. Bon, ce courant qui est représenté par Toby Nathan aujourd'hui jouit de la même façon d'une très forte légitimité. Là encore, il s'agit d'aborder les troubles mentaux des migrants dans la problématique de leur représentation culturelle, en organisant par exemple des consultations par des ethnopsychiatres qui s'efforcent de parler le même langage thérapeutique que les thérapeutes des sociétés d'origine. Bon. Parmi les critiques qui s'élèvent contre cette approche, je pense par exemple aux travaux de Richard Rechtmann, de Didier Fassin, etc. Quelqu'un comme Chantal Crène, qu'on connaît bien à Rennes, parce qu'elle était membre de notre laboratoire avant de partir à Bordeaux, dans un article par exemple dans Hommes et Migrations, elle décrit justement ses observations dans une consultation d'ethnopsychiatrie, et elle décrit les réticences d'un homme, bon, je ne me souviens plus du détail, je n'ai pas relu avant de venir, mais un maghrébin qui en fait refuse de voir son cas considéré dans une démarche à part, dans une consultation d'ethnopsychiatrie, qu'il considère être une médecine de seconde zone et qui exige d'être vu par un psychiatre normal, entre guillemets, un psychiatre qui n'est pas un ethnopsychiatre. Donc il refuse d'être ethnicisé en tant que patient. Alors, quelle critique peut-on formuler en fait à cette démarche de l'anthropologie culturelle, de l'ethnomédecine dont je n'ai pas parlé ici, mais on pourrait en parler de la même façon, de l'ethnopsychiatrie. En tout cas, en quoi son approche limitée, son approche des questions de santé, hein, des immigrés et de leurs descendants, est une approche limitée et critiquable aujourd'hui, hein. Je ne dis pas qu'elle n'a pas eu son heure, qu'elle n'a pas été intéressante à un moment, mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Eh bien, ces démarches, comme on peut le voir, posent d'abord des questions d'ordre politique, hein, parce que l'anthropologie n'agit pas à part. Les immigrés et leurs enfants sont enfermés dans un schéma culturel, hein, jusque dans leur maladie, dans le tréfonds de leur corps. Hein, ils sont considérés comme produits entièrement par leur société d'origine. Je schématise, mais franchement, je schématise à peine. Hein, parce que les travaux, par exemple, qui portent sur l'acculturation des systèmes de représentation étiologico-thérapeutique, c'est-à-dire la façon dont les immigrés perçoivent la maladie, son origine, la façon dont il faut la traiter, eh bien, la façon dont ces systèmes de représentation s'acculturent est, par exemple, très peu étudiée. L'acculturation étant donc la façon dont ces systèmes se modifient aujourd'hui dans les sociétés d'installation. Donc, au-delà de ces critiques évidentes, hein, qui sont celles des critiques de réductionnisme, le fait de focaliser sur les patients et non pas sur l'ensemble du système de santé et l'ensemble de la relation thérapeutique. Une autre critique qu'on peut formuler, c'est par exemple qu'on retire ainsi à la maladie son caractère collectif et social. Hein. Au contraire, c'est ce caractère collectif et social qui constitue la première avancée de l'anthropologie. Hein. C'est elle aussi qui avait dit à l'époque des premiers travaux d'anthropologie de la santé, eh bien, les questions de maladie, les questions de santé, de médecine ne constituent pas un domaine à part, il faut les considérer dans l'ensemble des actions sociales, dans l'ensemble de la société. Au-delà de ces critiques, on peut aussi formuler des critiques d'ordre épistémologique, à proprement parler, à cette approche. D'abord, cette approche-là de l'anthropologie de la santé considère des systèmes de représentation et de pratique. Or, on remet en cause aujourd'hui en anthropologie non seulement le lien entre représentation et pratique, mais encore, on remet en cause la notion même de système de représentation. Alors, c'est sûr que les enquêtes sur le sida, qui ont vraiment fait exploser en termes quantitatifs les enquêtes sur les questions de maladie, les enquêtes sur le sida, notamment, ont montré que les représentations et les pratiques n'étaient pas liées mécaniquement. Hein. On peut être convaincu que le sida est une maladie grave, qu'elle se transmet par voie sexuelle et sanguine, et on peut continuer pour autant à avoir pour beaucoup de raisons, hein, à avoir des pratiques à risque, hein, continuer à avoir des rapports sexuels sans préservatif, dans telle ou telle circonstance, etc. Donc, représentation et pratique ne sont pas liées de façon mécanique, loin de là. Donc, c'est pas parce qu'on va étudier un système de santé qu'on va tout comprendre sur la façon dont les gens se comportent pour soigner leurs maladies ou pour les prévenir. D'autre part, la notion de système, hein, qui était perçue comme un système de représentation logique, cohérent, fermé, concernant les représentations de la santé et de la maladie, donc, est également critiquée. De deux façons différentes, cette critique est mise de deux façons différentes. D'abord, certains chercheurs proposent aujourd'hui des modèles cognitifs alternatifs, hein, comme ceux de modules, par exemple. On ne parle plus de système, hein, de représentation, mais on parlerait plutôt de modules. C'est par exemple ce qui est proposé par des Français De Sardan et Jaffré. Alors, l'idée qui est défendue, c'est que dans notre tête, à chacun d'entre nous, on n'a pas des structures, hein, on n'a pas des structures du type structure d'une molécule, comme on pouvait les étudier au lycée, pour expliquer chaque maladie, mais les idées qu'on a sur la maladie s'organisent plutôt en modules plus petits, moins cohérents que les systèmes, plus souples et qui s'associent les uns aux autres. Deuxième critique, hein, à cette idée de représentation, à cette idée de liaison mécanique causale entre représentation et pratique, c'est l'importance de la dimension contextuelle des représentations et des pratiques de la maladie, qui ne doit pas être sous-estimée. Moi, je l'ai montré dans un contexte non migratoire, mais la question est la même, à propos de la tuberculose au Cambodge, où j'ai essayé de montrer que c'était un contexte non pas migratoire, mais un contexte néanmoins d'exode rural. Hein, donc des gens très différents qui débarquaient dans un quartier populaire de Phnom Penh, au Cambodge, et qui, en fait, pour une même maladie qu'on peut traduire par tuberculose, eh bien développaient des registres explicatifs de cette maladie très différents. Voilà, il y en avait plusieurs. La maladie pouvait venir comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. et qu'en fait, c'était le contexte d'apparition de la maladie dans lequel on piochait, si vous voulez, pour fournir une explication à la maladie en fonction du contexte et non pas seulement d'un système de représentation qui aurait été préexistant comme ça à la maladie. Donc, idée de module plutôt que de système, idée d'importance du contexte comme dans l'explication qu'on peut donner à l'apparition d'une maladie, etc. Voilà toutes les critiques qu'on peut adresser très rapidement à l'anthropologie de la maladie telle qu'elle est traditionnellement appliquée aux migrants. Alors, j'en viens à ce que la sociologie des relations interethniques, la sociologie des relations interethniques, nous dit et comment elle peut contribuer à nous aider à mieux comprendre les questions de représentation, les questions de santé, de maladie, de pratique thérapeutique des immigrés. Bon, c'est l'objet d'un séminaire collectif, donc je ne vais pas détailler, je vais dire juste ce qui m'intéresse moi ici. Les sociologues des relations interethniques préfèrent travailler à partir de la notion de minoritaire plutôt que d'immigré. Bon, je suis pas spécialement attachée au terme, mais c'est important ici. La notion de minoritaire ou d'ethnique, ou d'ethnicisé éventuellement, plutôt que celle d'immigré ou d'étranger ou que sais-je. Donc la notion de minoritaire a le mérite de prendre en compte l'ensemble de la réalité sociale des migrants et de leurs descendants, et donc de nous aider à mieux comprendre les questions de santé par là même. Minoritaire, ça signifie en effet que l'individu appartient ou est perçu comme appartenant à une minorité ethnique, c'est-à-dire un groupe qui se perçoit ou est perçu comme ayant des origines culturelles ou nationales différentes de celles de la société globale, la société majoritaire, ici la société française, sachant que ces différences sont bien entendu socialement construites et donc susceptibles d'évolution au fil du temps, en fonction notamment de l'évolution du rapport interethnique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, à certains moments, sont perçus comme plus étrangers que d'autres et d'autres moins. Bon, les Bretons sont peut-être un peu moins étrangers aujourd'hui pour des raisons qui ne tiennent pas qu'aux représentations, qui tiennent à l'évolution du rapport social entre majoritaire et minoritaire. Alors qu'aujourd'hui, les gens les plus fortement ethnicisés, ce sont les Maghrébins en France aujourd'hui. En France aujourd'hui, donc tout ça est très, très situé localement et dans le temps, et en particulier, et d'une façon plus générale, les musulmans. Donc on peut être perçu comme plus ou moins étranger selon les contextes et selon les situations. Les minoritaires sont dans un rapport social inégal avec les majoritaires, c'est-à-dire les membres de la société globale, donc qui, société globale qui représente la norme culturelle en matière de santé comme dans tous les autres domaines, et dont les classements sociaux sont souvent globalement défavorables aux minoritaires. Le minoritaire est globalement moins bien classé socialement. Alors, selon cette définition, les minoritaires ne sont pas bon, forcément des étrangers ni des immigrés. Ce qu'on appelle les minorités visibles, les Français d'outre-mer qui sont noirs et qui sont classés, qui sont des ethniques, en France aujourd'hui, les minoritaires, bien qu'ils ne soient pas étrangers au sens juridique du terme. Bon, j'insiste pas, c'est toute la question de la sociologie des relations interethniques. Dans tous les domaines de la vie sociale, et en particulier dans le domaine de la santé, le fait d'être un minoritaire est susceptible d'avoir des répercussions. D'abord sur l'accès aux ressources. L'accès aux ressources, d'une façon générale, est moins important. Le niveau de vie est globalement plus bas, celui des minoritaires. La discrimination agit. On pourrait parler des niches ethniques. Je ne vais pas développer cet aspect. En tout cas, le mode d'intégration socio-économique fait que l'accès aux ressources des minoritaires est moins important. Deuxième chose dont on peut supposer que tout ça aura une influence sur les questions de santé, la construction identitaire peut jouer un rôle dans les comportements de santé. Troisième point qui fait que, pris dans cette optique-là plus générale, le minoritaire voit des répercussions sur sa santé, c'est que la relation thérapeutique, médecin-patient immigré, que le médecin soit français ou pas d'ailleurs, que le médecin soit lui-même un ethnique ou pas, la relation thérapeutique est elle-même une relation interethnique. Bon, parce que ne serait-ce que parce que les perceptions réciproques du médecin et du patient seront influencés par ce qu'on appelle les ethnotypes, hein, c'est-à-dire les stéréotypes ethniques, hein, qui sont construits au cours de l'histoire, qui se sont construits notamment depuis les colonisations, mais qui ne cessent d'évoluer depuis en fonction justement du rapport social interethnique. Donc tout ça, bien sûr, est susceptible, en tout cas c'était mon hypothèse de départ dans cette recherche, tout ça est susceptible d'influencer les traitements, d'influencer les messages de prévention et d'agir d'une façon ou d'une autre sur les pratiques de santé et sur la santé des minoritaires. D'où l'intérêt, pour prendre cela en compte, de développer ce que j'ai appelé la notion d'expérience migratoire dans l'étude des pratiques thérapeutiques des migrants. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi l'expérience migratoire? C'est simplement signifier que la migration revêt une dimension à la fois individuelle et collective. Et c'est important quand on traite des questions de santé, parce que toute question de santé est toujours éminemment individuelle, vécue dans sa propre chair, dans celle de ses proches, et collective. Donc, l'expérience migratoire renvoie à la fois une histoire individuelle et une histoire collective. Histoire collective qui est une histoire de migration aussi. Individuelle parce que les biographies personnelles agissent parfois directement sur le projet migratoire. Bon, pour vous prendre des exemples dans l'enquête que je vais vous décrire maintenant, j'ai l'exemple d'un jeune homme libyen, par exemple, qui vit, qui veut s'installer en France. Hein, je l'ai interviewé ici. À Rennes, il vit douloureusement le décès de sa mère, qui est morte d'un cancer du sein, et sur laquelle il a veillé jusqu'à la fin. Et en fait, il n'aurait jamais pris la route de l'exil, ce jeune homme, sans cet accident-là de la vie, hein, à la suite duquel il s'est brouillé, bon, pour des raisons qui ne tiennent pas à m'exposer en détail d'ailleurs, avec sa famille. Il a décidé de tenter sa chance ailleurs, voilà. Il a aujourd'hui fondé une famille avec une épouse française à Rennes. Il a l'air bien installé, mais il a des cauchemars incessants qui perturbent ses nuits depuis ce deuil. Bon, voilà un exemple où l'expérience individuelle est intimement liée à l'expérience migratoire et intimement liée à des problèmes de santé. Bon, on peut citer aussi par exemple cette jeune femme là qui m'a marqué aussi dans cette enquête. C'était une jeune femme japonaise, dont le parcours migratoire, les pratiques thérapeutiques, le rapport à sa famille, notamment à sa mère, sont étroitement imbriqués aussi. En France, depuis qu'elle est là, elle souffre d'un eczéma dont elle n'arrive pas à venir à bout. C'est un eczéma vraiment rude, hein, elle se gratte, elle est au sang en permanence. Ça démange horriblement, c'est très, très inesthétique de surcroît. Elle a commencé une longue quête thérapeutique, hein, une quête complexe qui la mène de chez son médecin traitant à des homéopathes, à des acupuncteurs, à un psychiatre, etc., toujours pour ce problème, qui allie en fait à la fois des domaines, des pratiques médicales disons connues au Japon, la médecine scientifique, des médecines d'origine chinoise qui sont beaucoup développées au Japon, et puis des pratiques qui sont très très atypiques par rapport aux habitudes de soins japonaises. Par exemple, le psychiatre est un individu qui est totalement proscrit des pratiques de soins japonaises. Donc cette quête très longue, très pénible, en contexte migratoire, la renvoie, par les explications qui lui sont données par ses soignants, à sa propre problématique familiale. L'acupuncteur lui dit par exemple qu'elle a le foie bloqué. C'est ce qui symbolise une colère rentrée, hein, pour ce cet acupuncteur. Donc elle associe ce sentiment aux relations difficiles qu'elle a avec une mère traditionnaliste dont elle a cherché à s'éloigner par la migration, voilà, etc. Donc on a là des histoires très individuelles, mais au-delà de ces histoires de vie individuelles, eh bien la migration a un caractère collectif avec un impact certain, hein, sur les pratiques thérapeutiques à différents niveaux. Par exemple, au niveau évidemment des représentations culturelles de la santé et de la maladie, je ne les nie pas, hein, même si je considère qu'on ne peut pas, les considérer comme expliquant dans leur totalité, disons, les pratiques de santé des minoritaires. Donc, représentations culturelles de la maladie et de la santé qui sont modifiées dans la migration. Là encore, on manque d'études sur les processus d'acculturation, c'est-à-dire comment on change d'idée sur la maladie quand on prend la route de l'exil. Et qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants? On manque beaucoup de données là-dessus en anthropologie. Deuxièmement, par exemple, hein, deuxième exemple de domaine où l'impact sur les pratiques thérapeutiques est important, c'est le droit, hein, les droits associés au statut juridique des migrants, hein, qui influent sur leurs conditions de vie, donc qui influent sur leurs pratiques de santé. Et puis troisième chose, comme je l'ai dit, les rapports interethniques globaux, c'est-à-dire toutes les relations entretenues par le migrant avec les membres de la société globale, car les migrants n'occupent pas tous la même position dans la société française, n'ont pas tous la même image auprès des Français, entre guillemets, donc des acteurs du système de soins, etc. C'est tout ce que j'ai dit précédemment. Et puis, cette idée, encore une fois, que le rapport avec les institutions médicales, avec les acteurs du système médical, est aussi une relation interethnique et doit être analysée comme telle. Bon, voilà un petit peu comment j'ai revisité, repensé, refondé l'anthropologie de la santé, en réfléchissant à partir du cadre relations interethniques. Je vais donc vous livrer maintenant, si vous n'êtes pas assommé, fatigué. C'est vrai qu'on traite de son propre domaine, c'est toujours plus facile d'en parler rapidement, de synthétiser. C'est vrai que quand on vient d'autres disciplines ou quand on n'étudie pas les questions de santé, c'est peut-être plus lourd à digérer. En tout cas, je vais être peut-être plus concrète maintenant en abordant cette enquête rennaise. Alors, je vais pas vous donner de nombreux détails, hein, sur la méthodologie de l'enquête pour pas alourdir l'exposé. Bon, le rapport est en ligne, hein, on peut le consulter pour en connaître les détails sur le site de l'ADRAS, ADDRAS, qui est devenu l'ODRIS depuis. Enfin, quand on tape ADRAS pour le moment sur un site Google, on tombe sur le site de l'ODRIS. Bon, bref, je ne vais pas vous donner mal. Non, on tombe sur le site de l'ODRIS. Donc, il s'agit d'une enquête qualitative auprès de 33 immigrés. Bon, immigrés étant définis dans cette enquête, parce qu'il fallait bien borner un peu, étant définis comme des gens nés étrangers à l'étranger, c'est la définition de l'INSEE. Hein. Donc, des gens nés étrangers à l'étranger, et donc pas les enfants de ces personnes qui ont changé de pays pour venir s'installer ailleurs, provisoirement ou définitivement. Donc, l'échantillon a été choisi de façon à être le plus diversifié possible, hein, sur le plan de l'âge, du sexe, l'origine nationale, la situation matrimoniale, la CSP, le statut administratif, etc. Donc, échantillon varié, non représentatif évidemment, parce qu'on a 33 personnes, mais c'était une enquête qualitative, hein, qui demandait aux gens de décrire leur parcours, leur biographie finalement, leur biographie, l'histoire de leur migration, l'histoire de leur installation en France, avec l'éclairage, ben voilà, des questions de santé, de la maladie. Quelles maladies ils avaient eues, comment ils s'étaient soignés, comment ça s'était passé. C'est une enquête qui a été financée par le FACILD, le Fonds d'Action pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, qui a changé de nom aujourd'hui, bon, en début d'année, et qui s'appelle l'Agence pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances, c'est ça ? Avec un partenariat entre Réseau Ville Hôpital, qui est une grosse association, une grosse association de médecins, de soignants et de travailleurs sociaux qui ont un vaste programme, le plus important probablement en Bretagne aujourd'hui, sur, entre autres, hein, sur les soins aux migrants qui en ont besoin, donc qui ne peuvent pas bénéficier de soins habituels, dans le cadre habituel du système de soins de santé français. Donc Réseau Ville Hôpital, et puis l'ADRAS, une association de sociologues à laquelle j'appartiens, qui s'appelle maintenant l'ODRIS. Bon, c'est un peu complexe, je suis désolée. L'ODRIS, voilà. Bon, voilà pour cette enquête, et je vous en livre les principales conclusions. Alors, c'est des conclusions dont on va voir comment elles illustrent en fait ce que je vous ai dit précédemment sur cette façon de concevoir l'anthropologie de la santé dans un cadre plus large, le cadre plus large des relations interethniques. Alors, La première chose qui ressort de cette enquête, ce sont des interviews longs, hein, qui duraient entre 1h30, 3h, 4h, 5h, jusqu'à épuisement de l'anthropologue, en fait, parce que jusqu'à épuisement de l'anthropologue. Donc le plus long a duré 6h. Enfin, ils étaient deux, hein. Donc c'était un vieux couple qui s'ennuyait un peu, qui avait très envie de parler. Donc, les conditions de l'émigration hors du pays d'origine sont toujours décrites comme très éprouvantes, tant sur les plans psychologiques que matériels que social. Elles sont décrites comme ça par les personnes interviewées. Même quand la migration s'est déroulée dans de bonnes conditions juridiques, comme c'est le cas par exemple de l'immigration ouvrière maghrébine ou turque des années 60, 70, etc., c'est toujours extrêmement difficile, physiquement et psychologiquement. Les conditions de l'arrivée en France se sont dégradées ces dernières années, hein, et ce sont les demandeurs d'asile qui vivent aujourd'hui les conditions de voyage, les conditions d'arrivée, les conditions de séjour les plus pénibles. C'est pas faire preuve de misérabilisme que de le dire et de le répéter, hein, parce que on est parfois suspect, j'en parlais il y a quelques jours encore avec un historien qui traite de questions totalement différentes, enfin qui travaille pas du tout sur les questions de relations interethniques, et qui trouvait que cette approche des minorités opprimées, etc., est une approche misérabiliste. Ça l'est pas du tout de constater que l'émigration est quelque chose de très douloureux, de très éprouvant, avec des répercussions multiples sur la santé. Deuxième conclusion, l'installation en France, dans les premiers mois, est marquée par un contraste très fort entre difficulté d'installation, difficulté à trouver un boulot, un logement, qu'on a le droit de travailler, etc., et facilité d'accès à la couverture maladie. Et là, ça me fait un peu penser à ce que disait Raymond dans l'introduction à un livre collectif sur santé et territoire, où justement, la mesure de la santé ne s'arrête pas à la couverture maladie et qu'il faut trouver d'autres indicateurs. Donc l'installation en France, dans l'enquête, là, est perçue comme bien plus facile concernant l'inscription à la sécu, le droit à aller voir un médecin, les tests médicaux, etc., que tous les autres aspects. Les deux tiers des personnes interviewées ont rencontré des problèmes lors de leur recherche d'emploi. Un tiers a éprouvé des difficultés concernant la recherche d'un logement, mais globalement, tous, aucun n'a éprouvé de difficultés à se voir attribuer, par exemple, la CMU. Hein. La CMU a beaucoup facilité, hein, l'accès à la protection sociale, et dans l'enquête, 18 sur 30 interviewés ont la CMU. D'où d'ailleurs souvent, de la part des médecins, un certain amalgame, disons, une certaine facilité à glisser de patient CMU, patient immigré. Ce déséquilibre entre un accès aux soins relativement facile et une insertion socio-économique qui est bien compliquée aujourd'hui, bien plus compliquée aujourd'hui que hier, doit faire notamment porter l'attention des soignants sur les risques d'une surconsommation médicale. Hein. C'est-à-dire on compenserait dans le domaine médical ce qu'on n'obtient pas dans d'autres domaines. Et on voit bien on voit bien là-dedans comment l'expérience migratoire, donc bien au-delà de la culture, bien au-delà des questions culturelles, peut agir sur la santé et sur les pratiques thérapeutiques. Troisième chose, malgré tout, des problèmes nombreux subsistent dans l'accès à l'information sur la couverture médicale. Et sur le plan de la couverture médicale, hein, j'ai notamment identifié que les artisans du bâtiment constituaient un groupe à risque particulier, notamment les artisans du bâtiment immigrés. On ne peut pas rentrer ici dans le détail, mais on a montré ailleurs avec Martine Wadblay dans un article sur les modalités spécifiques d'intégration socio-économique des maçons turcs, comment justement cette intégration-là, qu'on appelle une niche ethnique en sociologie des relations interethniques, était susceptible d'avoir des répercussions sur la santé. Quatrième chose, J'ai regroupé, donc les épisodes de maladie m'ont été décrites hein, pendant cette enquête par les interviewés. Je les ai regroupés, donc moi-même, hein, c'est une catégorisation exogène, hein, c'est moi qui l'ai faite, en trois catégories, qui ne sont pas du tout des catégories médicales, et je souligne en passant qu'il y a une absence totale de données épidémiaux sur la santé des migrants en Bretagne et en France d'une façon générale. On a quand même quelques données de la COMED, mais ce sont des données qui sont basées sur les patients qui sont venus consulter. Donc ce ne sont pas des données générales. Alors ces trois catégories de maladies, telles qu'elles sont décrites hein, par ces interviewés, c'est d'une part des maladies professionnelles et des accidents du travail fréquents. Hein, j'ai 10 personnes qui me décrivent un tel épisode les concernant ou concernant un proche, donc beaucoup d'accidents du travail et de maladies professionnelles, presque tous d'ailleurs venant d'ouvriers du bâtiment, d'origine maghrébine, d'origine turque. Deuxième chose, pas mal de pathologies lourdes, chroniques ou d'hospitalisation, puisque j'ai 33 descriptions hein, pour un échantillon de 33 personnes. Alors ça ne veut pas dire que toutes l'ont décrite, hein, mais... Une personne pouvait me décrire évidemment plusieurs épisodes, donc 33 au total, qui répondent à un tableau nosologique varié, hein, je ne vais pas détailler ici. En tout cas, bon, un état de santé qui est globalement pas très bon, hein, c'est ce qu'on peut conclure à la lecture de ces entretiens. Et puis troisième chose, de nombreuses maladies, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, de nombreuses maladies qui sont directement attribuées dans les représentations à la migration elle-même. Que ce soit les conditions de la fuite du pays pour certains demandeurs d'asile, que ce soit la nostalgie de la séparation avec les proches, que ce soit les conditions de vie en France, eh bien tout cela dans l'esprit, dans les représentations des personnes que j'ai interviewées, est directement responsable de nombreuses pathologies. Donc le corps est le vecteur le plus significatif de la migration. C'est comme ça qu'il est décrit dans les entretiens. D'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est le corps médical, le personnel médical, qui est, de tous les secteurs de la société française, le plus susceptible de répondre, même superficiellement, à une demande. Puisque les autres secteurs, j'ai dit, hein, travail, logement, etc., sont bien moins accessibles. Donc le langage de la migration, hein, c'est aussi un langage du corps qui est exposé aux médecins lors des consultations. Alors les troubles qui sont directement attribués à la maladie sont extrêmement variés. Hein, ça va de la bilharziose et ses séquelles, à des hypothyroïdies, du cholestérol, etc., des douleurs au ventre, du somnambulisme avec cauchemar. Enfin, c'est pas les pathologies elles-mêmes, si vous voulez, qui nous donneront des idées sur ce que les gens perçoivent comme étant des maladies liées aux migrations. Je vous donne quelques exemples, par exemple. Un Rwandais contaminé par le VIH, qui attribue en fait à sa fuite hors de son pays sa contamination. Parce qu'il aurait été soigné dans un centre de santé de fortune hein, sur la route de la fuite, et il aurait été infecté par une seringue souillée. Donc pour lui, c'est la migration directement qui est responsable de sa pathologie. Bon, d'autres personnes décrivent des douleurs beaucoup plus diffuses, hein, liées aux soucis de l'installation, à la séparation avec les proches. J'ai un ouvrier algérien, par exemple, de 56 ans, qui n'a pas pu rentrer pendant longtemps en Algérie pendant les événements. Sa femme et ses enfants sont restés en Algérie, qui me dit « Quand on est là, on a tout le temps la tête ailleurs, l'esprit voyage gratis. » Ça me rendait malade, dépressif, j'avais mal partout, j'avais plein de médicaments. Un autre, par exemple, qui est un Angolais, demandeur d'asile de 38 ans, qui décrit son début de cholestérol et le lie à son alimentation, puisqu'il se nourrit directement, exclusivement de boîtes de conserve distribuées par les Restos du Cœur. Donc voilà, toutes ces représentations montrent bien aussi que les représentations dites culturelles de la maladie ne sont pas les seuls registres étiologiques hein, et qu'il existe tout un ensemble de registres de causalité de la maladie. Conclusion suivante, c'est vous n'êtes pas totalement assommé. c'est que les représentations du corps, les représentations des maladies influencent bien sûr les recours thérapeutiques. Ce serait ridicule de le nier, même si je pense que c'est pas les seuls, le seul facteur. Et j'ai mis à jour comme ça, par exemple, des systèmes éthiologico-thérapeutiques, ce que font classiquement les anthropologues à partir des entretiens. Alors vous avez comme ça des grands systèmes organisés qui expliquent, qui forment le cadre explicatif très global de la maladie. Alors vous avez le système, par exemple, organisé autour des notions de chaud et froid, qui est très, très général. Des notions d'ordre symbolique, qui ne sont pas liées bien sûr à des simples mesures d'ordre thermique. C'est le cas chez les patients, enfin c'est pas des patients, chez les interviewés, c'est pas forcément des gens malades que j'ai interviewés. Donc chez les interviewés malgaches, par exemple. Mais on en retrouve dans beaucoup d'autres endroits du monde. Le système éthiologico-thérapeutique, donc le système de représentation des causalités de la maladie et des soins, organisé autour de la notion de force que j'ai retrouvée donc chez cet interviewé libyen dont je vous parlais et chez les personnes marocaines. La force dans le sang, ou bien la notion de force qui fait qu'on attrape plus ou moins facilement une maladie. Et puis, le système tournant autour des théories humorales. Là aussi, assez général. En tout cas, en Asie... Extrême-Orient et Asie du Sud-Est, on le retrouve fréquemment. La personne japonaise y faisait référence. Une personne vietnamienne également que j'ai rencontrée. Des théories qui sont des théories de circulation des fluides dans le corps, et qui sont susceptibles d'expliquer la maladie, quand il y a déséquilibre, etc. Mais ce qui est important, c'est que ces grands systèmes de représentation coexistent avec des gestes de soins au quotidien qui ne sont pas directement puisés dans ces grands cadres d'explication de la maladie et qui relèvent plus d'un raisonnement pragmatique, plutôt qu'une d'une construction abstraite d'idées sur la maladie. Autre chose, c'est que ces systèmes de représentation traditionnels, entre guillemets, se superposent sans aucune contradiction et sans aucun problème avec les explications données par le médecin, par exemple, des explications diverses, dont celles qui relèvent du registre scientifique. L'enquête montre ainsi qu'il n'y a aucun obstacle d'ordre représentationnel, d'ordre culturel, à l'accès aux services biomédicaux. Je n'ai rencontré aucun patient qui ne serait pas allé voir un médecin parce qu'il pensait que la maladie venait de ci ou de ça. Ça ne veut pas dire ces patients d'origine étrangère n'ont pas des recours multiples, comme on les pratique évidemment ici ou ailleurs, mais il n'y a aucun obstacle culturel au fait d'aller consulter un médecin. Néanmoins, le domaine de la prévention s'avère un peu plus délicat que celui de la prise en charge curative. Chez les personnes âgées maghrébines de milieux ouvriers notamment, encore une fois, l'échantillon n'est pas représentatif, je vous livre ce que j'ai trouvé, c'est pas une enquête quantitative. Si tant est qu'on puisse mettre en évidence sur le plan, de façon quantitative des choses comme les représentations de la maladie. Moi, j'y crois pas, mais bon. On note, en tout cas, chez ces personnes âgées maghrébines de milieu ouvrier, des réticences au dépistage de certains cancers, notamment les cancers qui sont assimilés à des cancers de zone sexuelle, sein, utérus, prostate, côlon, notamment, alors pour des raisons qu'il faudrait approfondir, liées par exemple à la crainte de découvrir un problème grave, mais le syndrome de l'autruche n'est pas culturel, il est très général, on a tous peur de voir découvrir des choses graves, on préfère ne pas aller chez le médecin. Des représentations de la féminité, masculinité, des notions de propre et de sale, qui seraient peut-être, qui expliqueraient quand même peut-être ces comportements insuffisants, disons, en matière de prévention des cancers dans cette population. Des représentations aussi en termes de croyances religieuses liées à la prédestination. Il y a un ouvrier maghrébin qui m'a dit le sort en est jeté, pourquoi le terme de notre vie est fixé par Dieu, quoi qu'on fasse de toute façon, le terme de notre vie est fixé. Donc la banalité et l'insuffisante force des messages de prévention apparaissent comme des manques d'encouragement à l'arrêt du tabac. par exemple. C'est-à-dire les médecins sont un peu mollasses, nous disent, me disent les interviewés, quand il s'agit de faire passer les messages de prévention. Eux préféraient qu'on soit beaucoup plus directif et beaucoup plus violent dans la façon de, dans la façon de présenter les risques. Hein. Or, les médecins se contentent de dire « Bon, allez, il faudrait mieux arrêter de fumer, ce serait mieux pour vous. » Eh bien non, ils préféraient des choses plus... Ce qui d'ailleurs était tenté, enfin, dans des contextes non migratoires, mais les messages de prévention aujourd'hui pour le sida sont extrêmement offensifs. Hein. Dans beaucoup de pays du Sud, les messages sont très offensifs, hein, à la limite de l'agression. De l'agression. Voilà, et puis... Donc, comme je vous disais, bon, bien que... Bon, il s'agisse d'un échantillon de 33 personnes. Bon, j'ai fait d'autres enquêtes qui me permettent de penser que les résultats sont représentatifs. La pratique de formes de médecine traditionnelle, entre guillemets, n'empêche pas le recours massif à la médecine scientifique. Hein. Il n'y a pas de... Comme chez nous, sauf que chez nous, ça fait longtemps qu'on le sait. Alors que pour les patients d'origine immigrée, on a souvent dit que certaines pratiques traditionnelles empêchaient le recours à la médecine scientifique. C'est pour ça que, en fait, les choses se passent, c'est vrai, de la même façon. Dans un contexte de pluralisme médical, eh bien, les gens ont des recours variés. Bon, précisons ici que j'ai appelé médecine traditionnelle ici tout et n'importe quoi, à défaut de trouver un terme plus adéquat, c'est-à-dire toutes les pratiques alternatives à la médecine scientifique, dans ce cadre de cette enquête en tout cas, parce que, bon, en fait, les connaissances et les pratiques que les uns et les autres dans cet échantillon avaient de pratiques de santé, pratiques de soins alternatives, non médicales, non biomédicales, étaient très variées. Hein. Il y avait 8 individus qui n'avaient aucune connaissance de thérapie dans leur pays d'origine, tandis que la plupart en avaient une connaissance très sommaire, et 4 individus seulement en avaient une connaissance approfondie, dont un ancien médecin traditionnel, qui était un herboriste dans son pays. Bon, dans tous les cas, il est difficile, mais bon, je n'ai pas fait d'enquête spécifique là-dessus, il est difficile de trouver en France et en particulier à Rennes les produits, les spécialistes nécessaires si vous voulez avoir une démarche alternative liée au pays d'origine, disons. Si ces formes de pratique sont en perte de vitesse, et j'aurais tendance à le penser, les interviewés affichent au contraire une très grande fidélité à leur médecin traitant, puisque 18 sur 33 sont fidèles, dont 3 depuis plus de 20 ans. Et la majorité des autres ont changé de médecin pour des raisons pratiques, comme le déménagement. Alors j'insiste lourdement, parce que malheureusement, bien que je sois avec des géographes, mon étude est très peu spatialisée. Donc la majorité de ceux qui ont changé de médecin l'ont fait pour des raisons pratiques, comme le déménagement, et la majorité aussi sont satisfaits de leur médecin. Il y a 2 personnes seulement qui ne sont pas satisfaits de leur médecin. Les choix ethniques sont très rares, c'est-à-dire le fait de choisir un médecin compatriote, mais en revanche, certains généralistes ont une forte clientèle d'origine étrangère et ils sont un peu considérés comme des spécialistes par les interviewés. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de la diversité ethnique, ils ont l'habitude de recevoir des étrangers, ils ont l'habitude d'entendre parler français avec un accent étranger. Donc, on leur attribue une compétence ethnique. Alors, c'est presque fini. Une autre des conclusions, c'est que le vécu de la relation médecin-malade est souvent très positif pour les patients immigrés. Entre parenthèses, je dis que c'est beaucoup moins le cas des médecins, parce que j'ai une enquête en cours qui, justement, essaie de mettre en regard, de mettre en miroir cette enquête sur les patients immigrés et l'expérience que les médecins généralistes ont de leurs patients immigrés. Les appréciations portées par les interviewés sur les soignants et le système de santé français sont globalement très élogieuses. Souvent, on le compare avec le système de santé du pays d'origine, et le système français est très apprécié. Les professionnels de santé sont considérés comme de très bons professionnels. Ça n'empêche pas, bon, que des points négatifs soient formulés. Hein. Les critiques qui portent sur médicaux et paramédicaux confondus, hein, sont émises par un bon tiers de l'échantillon, dont une majorité de femmes et de jeunes adultes. Ce sont eux qui sont les plus critiques. La moitié de ces critiques portent sur un défaut de communication et sur la difficulté d'accès aux services médicaux, notamment une attente trop longue, etc. Je dirais aussi entre parenthèses que, sans avoir entièrement fini de dépouiller cette seconde enquête sur les médecins généralistes, eh bien eux-mêmes se plaignent parfois de patients qui sont au contraire trop revendicatifs, ont envie de passer vite, ne sont pas patients, etc. Je ferme la parenthèse. Pour finir sur une dernière surprise, malgré ce tableau, vous voyez, plutôt élogieux sur cette façon plutôt positive d'envisager les médecins français et le système de santé français, eh bien, au-delà de ces discours généraux qui font l'apologie du système de santé et de ses professionnels, eh bien, il y a 9 personnes néanmoins, soit près d'un tiers, qui décrivent des épisodes où elles se sont senties discriminées. Alors, par discrimination, j'entends ici des attitudes, des propos, des actes négatifs, hein, commis à l'encontre d'une personne du fait de ses origines ethniques différentes ou supposées telles. Et il s'agit ici évidemment de discrimination ressentie. Alors, il faut souligner qu'il existe une réticence très importante des interviewés à parler de ces discriminations. Contrairement à ce qu'on croit souvent, enfin, les gens qui ont fait des études sur les questions de discrimination savent que souvent les personnes se sentent elles-mêmes responsables de cet acte discriminatoire. Alors, on entend souvent des paroles genre « mais il était peut-être fatigué, j'étais peut-être pas de bonne humeur ce jour-là, ça a peut-être mal tourné à cause de ça ». Enfin, les gens sont souvent pas du tout dans une revendication contre la discrimination, ils sont au contraire dans le fait de la minimiser, de dire que finalement c'est peut-être parce qu'ils étaient tombés au mauvais endroit, au mauvais moment, etc. Là encore, la discrimination ressentie apparaît comme très faible, hein, par rapport à d'autres secteurs. Hein, le logement, le travail, les relations de voisinage, etc. sont beaucoup plus productrices, disons, de situations discriminatoires, en tout cas telles qu'elles sont ressenties par les interviewés. Alors, les discriminations sont de différents types. Hein. D'abord, il y a le type ethnicisant. C'est décrit par 3 personnes. Hein. Il y a le thème de l'étranger profiteur, hein, qui est venu dans notre pays pour profiter, en particulier du système de santé. C'est décrit par 2 personnes. Il y a le thème de l'étranger dangereux par ses maladies. Hein, donc, il faut se méfier parce que ces gens-là peuvent nous transmettre des maladies. C'est décrit par 1 personne. Et en fait, des attitudes plus générales d'hostilité, de mépris, de condescendance, etc., qui sont décrits par 2 personnes. Alors, il faut quand même préciser que l'ethnicisation du migrant, c'est-à-dire de le fait de le considérer comme entièrement défini par son ethnicité, eh bien, ne repose pas toujours sur une intention hostile, hein. L'ethnicisation du patient migrant, c'est l'attitude qui consiste à ramener systématiquement ce patient à son origine ethnique, considérée comme centrale et explicative de toutes les autres dimensions de la relation thérapeutique. Donc il n'y a pas forcément d'intention hostile. Alors ça peut être vécu aussi dans l'humiliation. Hein, je pense à une jeune femme d'origine ukrainienne qui était partie consulter une gynécologue hospitalière pour une douleur qui était causée, selon elle, par son stérilet qui avait été posé dans son pays d'origine. Dans un autre pays, parce qu'elle avait transité par un autre pays, dans un pays d'Europe de l'Est où elle avait séjourné. Et au ton qu'a pris l'interrogatoire médical, elle s'est sentie traitée comme une prostituée, me dit-elle, parce qu'elle venait d'Europe de l'Est. Donc la gynécologue, qui était une jeune femme peut-être inexpérimentée, pense-t-elle, eh bien, lui a demandé combien de partenaires sexuels elle avait par semaine. Bon, ça l'a terriblement vexée, parce que, dit-elle, moi je travaille 18 heures par jour, et donc elle s'est sentie traitée comme une prostituée parce qu'elle venait d'un pays de l'Est. Ensuite, la praticienne s'est lourdement étonnée que sa patiente ne connaisse pas la pilule, comme si c'était totalement impensable, et ça a augmenté son humiliation, cette fois-là pour ignorance. On se regrette un peu de finir sur ces paroles parce que, bon, la dimension discriminatoire existe, mais ne ressort pas massivement néanmoins de cette enquête. Et encore une fois, elle est bien moins ressentie dans ce domaine médical que dans d'autres. Donc voilà, c'était pour illustrer à partir de cette enquête, bon, cette idée que on peut comprendre la santé des migrants, leurs pratiques thérapeutiques, dans un cadre plus large que celui de l'anthropologie de la santé ou de l'anthropologie des systèmes de représentation.